Aujourd'hui, nous recevons Patrick Pedersen, qui est le responsable Afrique de Itch. Itch est à l'origine une plateforme née en 2013 qui était destinée au covoiturage de nuit. Mais la compagnie pivote à la suite de déboires judiciaires et devient une plateforme de VTC. Très vite, la plateforme a les yeux sur l'Afrique. Cameroun, Algérie, Maroc et bientôt Sénégal et Tunisie, elle se taille une place enviable sur le continent. Avec Patrick Pedersen, qui est en charge des opérations africaines de la compagnie française, nous allons parler du développement de celle-ci, mais aussi de la mobilité en Afrique. Alors Patrick, bonjour.
Bonjour.
Avant de commencer, pouvez-vous nous dire si cette présentation est correcte ?
Oui, tout à fait. C'est absolument ça. Il y a juste les pays futurs. C'est pas évident qu'on ira au Sénégal, mais à part ça, oui, la présentation est très claire.
Et donc, c'est parti pour cet entretien. Alors Patrick, on a récemment assisté au jet d'éponge Uber au Maroc. Votre compagnie, étrangement, y prospère. Donc, sur ce marché-là, elle est plutôt présente et bien implantée avec près de 5000 véhicules. Quel est votre secret ?
En fait, on travaille avec des taxis, on travaille en respect de la loi. C'est-à-dire que pour travailler au Maroc, il faut avoir un agrément royal et il faut travailler uniquement avec des gens qui possèdent une licence de taxi. C'est ce que nous avons fait, contrairement à Uber qui, lorsqu'ils opéraient à l'époque, travaillaient sur une formule VTC, donc avec des particuliers, et qui n'avaient pas d'autorisation. Ils ont fini par quitter le marché dans la mesure où les syndicats de taxi ont réagi de façon assez violente en faisant ce qu'ils appellent des braquages, c'est-à-dire qu'en fait, ils attaquaient les voitures des chauffeurs Uber pour les empêcher d'exercer leur métier. Et au bout d'un moment, effectivement, Uber en a eu un petit peu assez de cette situation. Et comme nous, on avait quand même réussi à prendre des marchés importants avec les taxis, Uber a donc décidé à l'époque de quitter le marché marocain.
Il quitte le marché marocain, mais il contre-attaque en rachetant la compagnie Karim, qui, elle, a des accords avec des syndicats de taxis au Maroc, et votre cohabitation ne va pas sans heurts. Vous avez récemment eu des démêlés judiciaires. Qu'est-ce que vous reprochez à Karim spécifiquement ?
Alors déjà, aujourd'hui, Karim n'a pas d'accord avec des syndicats de taxi, puisque pour avoir... Aujourd'hui, Karim opère au Maroc à 95-98% de son activité, ça se fait avec des VTC, qui est une activité qui est toujours illégale et qui a même été décrétée illégale par le ministère de l'Intérieur au Maroc il y a maintenant plusieurs semaines. Donc aujourd'hui, Karim opère au Maroc en dépit de toute légalité. Quelques taxis pourraient utiliser la plateforme, mais ne le font pas. Et donc, nous avons décidé qu'il y avait une distorsion de concurrence, puisque lorsque vous opérez en ne payant pas de taxes, en utilisant des gens qui ne sont pas professionnels, qui ne payent pas de patente et qui ne respectent pas les règles du jeu, il y a distorsion de concurrence. Et donc, on a décidé de les attaquer au niveau du Conseil national de la concurrence et on attend un retour de la part des autorités marocaines dans les semaines à venir.
Quand on voit la bataille qui fait rage sur le marché de la mobilité en Afrique, on peut se demander à quoi ressemble l'avenir de ce marché pour vous et quel rôle est-ce une compagnie comme la vôtre entend y jouer dans un futur assez proche ?
C'est un marché qui est en plein développement dans le monde entier et géré particulièrement en Afrique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la mobilité en Afrique est un problème crucial. En moyenne, un Africain, pour se déplacer, dépense 25 à 30% de son salaire uniquement en déplacement. Dans les pays d'Europe, on est plutôt à 5% d'un salaire global. Donc on s'aperçoit que la mobilité est une des premières préoccupations sur le continent africain. L'avenir pour une société comme la nôtre, c'est de nous intégrer harmonieusement dans les systèmes qui existent aujourd'hui, c'est-à-dire travailler en bonne relation avec les autorités, travailler en essayant d'apporter une réelle valeur ajoutée, d'une part pour que les chauffeurs aient un revenu décent et un statut social reconnu, c'est-à-dire que on le voit au Cameroun, les chauffeurs de taxi-moto sont assez mal vus. À partir du moment où ils travaillent avec Itch, on leur donne un statut, on leur délivre une licence, et quelque part, ils sont mieux reconnus par la population et par les autorités. Et puis, bien évidemment, côté passager, c'est apporter de la sécurité, parce qu'aujourd'hui, au-delà d'une recherche de prix, qui est quand même une préoccupation majeure de tous les passagers dans le monde entier, en Afrique, il faut rajouter une dimension importante, qui est celle de la sécurité. On risque sa vie quand on monte sur un taxi-moto en Afrique et que le chauffeur, il est mal formé. Donc nous, c'est comme ça qu'on essaie de se positionner, en bonne adéquation avec les autorités, en apportant un rôle pivot et central vis-à-vis des chauffeurs et vis-à-vis des passagers.
On va essayer d'approfondir un peu la question. Aujourd'hui, quelle est votre stratégie africaine ? Parce qu'on voit quand même planté dans les pays d'Afrique francophone. En fait, comment est-ce que Itch se développe aujourd'hui sur l'Afrique ?
On se développe en allant dans... Alors, pourquoi l'Afrique francophone ? D'abord parce qu'on y parle la même langue, on y rencontre des gens qui ont souvent été formés dans des écoles, donc on rencontre des managers d'assez bon niveau. Le système d'éducation en Afrique francophone est plutôt bon. On a en plus assez souvent des relations assez simples avec les autorités, puisque le fait de partager la même langue fait que très souvent les gens dans les pays francophones, les autorités dans les pays francophones viennent en France et connaissent Itch. Donc quand on les rencontre, je dirais qu'il y a une certaine reconnaissance de leur part sur la qualité du travail qu'on peut produire. Et donc notre stratégie, c'est de nous développer à travers le continent africain, notamment en Afrique francophone, en essayant d'apporter les services dont je vous parlais précédemment, c'est-à-dire des services sécures, bon marché et légaux.
Votre actualité, c'est la levée de 4,4 millions d'euros auprès du capital investisseur tunisien Africinvest. À quoi servira concrètement cet argent?
En fait, ça vient se rajouter aux 34 millions qu'on avait déjà levés précédemment auprès de nos investisseurs historiques. Et ça va justement permettre d'accélérer notre développement sur l'Afrique francophone à travers l'ouverture de nouveaux pays. Quand on lance un nouveau pays, il y a pas mal, effectivement, de frais liés à l'implantation et la création d'une filiale. On opère systématiquement dans le pays dans lequel on est, on paye systématiquement nos impôts dans le pays dans lequel on opère, et on recrute systématiquement une équipe complètement locale avec un country manager et des équipes de la nationalité du pays dans lequel on opère. Donc effectivement, c'est des investissements qui sont relativement importants. Vous pouvez rajouter à ça effectivement l'adaptation technologique de notre application au pays, plus les investissements marketing. Et donc l'argent d'Afrique Invest va servir majoritairement à développer la présence de Itch à travers les différents pays d'Afrique.
À la base, on avait annoncé la Tunisie et le Sénégal. Vous dites aujourd'hui que le Sénégal n'est pas sûr. Qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau?
On a rencontré les autorités sénégalaises il y a maintenant un an, des gens extrêmement compétents qui, pour le coup, avaient une position très claire. Et qui nous ont dit qu'aujourd'hui, un marché de PTC n'était pas ce qu'ils recherchaient, qu'en revanche, on était les bienvenus si on souhaitait travailler sur un marché de taxi. Il se trouve que la qualité des taxis au Sénégal, au niveau de l'état des voitures, n'est pas incroyable, qu'on n'a pas trop vu, je dirais, un volume de voitures qui nous permettrait de proposer un service qualitatif suffisant pour pouvoir effectivement prendre pied au Sénégal à court terme. Et donc on a décidé, plutôt d'un commun accord avec les autorités sénégalaises, qu'on allait attendre un petit peu pour se déployer, ou un changement de régulation de leur côté, ou éventuellement que nous reconsidérions notre position par rapport à la qualité des taxis qu'ils ont au niveau local. Mais je dirais qu'il n'y a pas eu de problème. Le gros avantage qu'on a eu avec les autorités sénégalaises, c'est qu'ils étaient extrêmement clairs sur leur message et que pour le coup, il n'y avait aucun flou juridique et que leur argumentaire était très bien construit.
Justement, revenons à un pays où il y a eu un quiproquo du point de vue juridique. En 2019, votre aventure dans les taxis-motos en Côte d'Ivoire s'arrête à la suite d'une interdiction des autorités. Quelles leçons tirez-vous de cette expérience?
Alors, je vais juste reformuler. On a décidé de s'arrêter alors qu'il n'y a pas eu d'interdiction des autorités. Les autorités nous ont dit « ce que vous faites n'est pas légal ». On a demandé à avoir un texte de loi. Personne n'a pu nous montrer de texte de loi. À partir de là, les autorités ont dit « si vous travaillez, on fera en sorte de vous en empêcher ». On a dit « très bien, sur quelle base juridique ?» Pas de réponse. À partir du moment où vous n'êtes pas les bienvenus dans un pays, et à partir du moment où les autorités sont incapables de vous produire un texte de loi, mais vous disent « on va vous empêcher de travailler », on a préféré quitter le pays. C'est aussi simple que ça.
Aujourd'hui, Itch, vous êtes présent en Afrique depuis quelques années déjà. Quelles sont les difficultés qu'on rencontre à essayer de s'implanter sur les marchés africains?
Je dirais qu'elles sont de trois niveaux. Elles sont d'une part un niveau pénétration technologique. Il n'y a pas toujours un réseau Internet et une pénétration du smartphone qui est suffisante dans tous les pays pour nous permettre de travailler aussi bien qu'on le voudrait. Donc ça, je dirais, c'est le premier aspect. C'est un aspect technologique, infrastructure technologique. Le deuxième problème qu'on peut rencontrer, mais pas partout, peut-être un problème de effectivement de régulation. Est-ce que la loi est claire par rapport à la mobilité et au transport? On s'aperçoit que c'est pas évident, y compris en Europe. L'Europe a encore des sujets, et même les États-Unis ont encore aujourd'hui des sujets par rapport à la régulation sur les métiers que nous faisons. Donc il est normal que l'Afrique ait pas mal ce genre de sujets. La difficulté qu'on rencontre, c'est que on se retrouve parfois dans des situations où l'absence d'un cadre juridique clair amène effectivement des quiproquos et des situations qui ne sont pas confortables. Comme par exemple en Côte d'Ivoire, ce qui fait qu'on a fini par quitter le pays. Et la troisième difficulté qu'on peut rencontrer, c'est la taille de votre marché. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous proposez un service qui est assez sécurisé et que vous apportez de la valeur ajoutée, ce service parfois est un petit peu plus cher que ce que vous allez payer dans la rue. Et donc vous n'êtes pas forcément mass market, vous adressez plutôt à ce moment-là des niches de gens qui ont un petit peu plus d'argent et les moyens de se payer un peu plus de sécurité, et donc vous êtes sur des marchés qui sont un peu moins mass market que ce que vous pouvez avoir quand vous opérez en Europe par exemple.
Est-ce que vos filiales en Afrique sont rentables jusque-là. Est-ce que le business model tient la route?
Ah non, ah non, non. Alors attendez, il y a deux questions. Donc non, elles ne sont pas rentables aujourd'hui. On est en phase d'investissement. Vous êtes sur des paliers moyens qui sont effectivement très faibles. Le coût d'une course est beaucoup plus faible en Afrique qu'en Europe. Or, votre structure de coût fixe est à peu près la même. Donc, la rentabilité est moindre. Le pari que font les entreprises comme Hitch quand on s'implante en Afrique, c'est de dire qu'à moyen terme, les volumes permettront de compenser la faiblesse du panier moyen et qu'on aura dans quelques années des sociétés qui sont rentables. Mais aujourd'hui, Hitch en Afrique, ce n'est pas un secret. On est en phase d'investissement et on perd de l'argent.
Oui, justement, quant au business model, qu'en est-il? Comment est-ce que vous entrevoyez les choses?
On prend une commission sur les courses. Aujourd'hui, la commission est sur une toute petite course. Lorsqu'on aura beaucoup de volume, ça sera toujours une toute petite course, mais il y en aura beaucoup, on équilibrera nos coûts et à terme, on gagnera de l'argent. Mais effectivement, ce n'est pas du court terme. Et des sociétés, toutes les sociétés aujourd'hui qui opèrent en Afrique, dans le secteur de la mobilité, des applications de mobilité, ne sont pas rentables en Afrique. Mais ce n'est pas grave, c'est un investissement qu'on fait pour un jour, effectivement, réussir à créer des boîtes qui sortiront de belles rentabilités sur ce territoire.
Est-ce qu'il y a des facteurs d'être enthousiaste? Est-ce qu'il y a des raisons d'être positif quant à ce scénario?
Ah oui, tout à fait. Clairement, on s'aperçoit que le taux d'usage augmente, on s'aperçoit qu'on réduit l'accidentologie, on s'aperçoit qu'on réduit la pollution, on s'aperçoit qu'on a comme aussi un rôle à jouer au-delà du rôle business, on a aussi un rôle sociétal, mais surtout on s'aperçoit que la croissance des applications de mobilité en Afrique fait qu'elle se rapproche jour après jour du jour où elles sortiront de la rentabilité. Alors, on n'aura jamais la rentabilité qu'on peut avoir dans les pays d'Europe ou des États-Unis, mais fondamentalement, le but du jeu, c'est aussi de sortir des rentabilités parce qu'une boîte est faite pour être rentable. Hein. Sans EBITDA, il n'y a pas d'entreprise. Par contre, à moyen terme, on sait que c'est les boîtes qui sortiront des rentabilités intéressantes avec des ratios inférieurs à l'Europe, mais avec des ratios qui, malgré tout, justifient les investissements.
Dernière question de cet entretien. Quels sont vos projets pour les prochaines années sur les marchés africains?
On a l'intention d'ouvrir encore 5 pays cette année. 3 seront ouverts dans les 2 mois à venir, donc on a quasiment terminé. Et on est en train d'en étudier encore 2 autres, donc on avance. On tient le plan de route tel qu'il était fait. Le but du jeu, effectivement, est de devenir un acteur majeur de la mobilité en Afrique, avec des modèles qui peuvent être différents, des taxis dans certains pays, des VTC dans d'autres, là où c'est légal. Typiquement, en Algérie, on travaille avec des VTC, puisque là-bas, le cadre légal est parfaitement clair. On travaille avec des taxis-motos au Cameroun, on travaille aussi avec des VTC au Cameroun, et dans les autres pays qu'on ouvre, on va continuer à panacher un petit peu, en fonction des us et coutumes des populations, et surtout de la régulation.
Patrick Pedersen, merci beaucoup.
Merci à vous.